Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 la porte-parole du gouvernement. Questions, réactions, 01 45 24 7000, réseaux sociaux et applications mobiles de France Inter. Sibeth Ndiaye, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter ce matin. On va commencer par le chantier de la réforme des retraites. C'est une réforme qui concerne tous les Français. Une nouvelle phase de concertation avec les partenaires sociaux s'ouvre aujourd'hui et se poursuit demain autour du Premier ministre à Matignon. Alors, on va commencer factuellement, donc, avoir une idée du calendrier. Est-ce possible, sur ce sujet, l'exécutif ne parle pas d'une seule voix, certains disent quelques mois, d'autres un peu plus, un an, c'est flou, qu'en est-il ? Pouvez-vous nous dire quoi et quand ?
Alors, c'est très simple, vous savez, dans l'exécutif, il y a un patron, il s'appelle Édouard Philippe, c'est le chef du gouvernement et donc en quelque sorte...
Pas Emmanuel Macron.
Il y a un patron dans l'exécutif, c'est le chef du gouvernement, c'est constitutionnel et donc Édouard Philippe est celui qui, en la matière, donne le la. Il a été, pour le coup, très clair, il nous a dit et il a dit devant les médias qu'il fallait quelques mois pour mener à la fois la concertation, la négociation avec les organisations syndicales et patronales, mais aussi pour débattre avec les Français. C'est une réforme qui est une vraie réforme de société, comme sans doute on en a peu connu dans notre pays. Et ce changement-là, nous voulons le faire non pas que pour les Français, mais aussi avec les Français. Ça prend du temps et on ne perd pas de temps à les consulter.
Plusieurs mois, est-ce que ça veut dire une réforme présentée avant l'été prochain?
C'est une réforme qui sera présentée dans le courant de l'année 2020. Après, vous savez, quelle que soit la date à laquelle on présente un projet de loi, pour répondre par avance à votre question, avant ou après les municipales, ce qui importe pour nous, c'est qu'on installe dans le débat public le sujet des retraites et que les Français sachent en quelque sorte d'abord les raisons qui nous poussent à vouloir réformer et aussi les solutions qu'on leur propose face à la situation actuelle.
Vous allez nous détailler ce que va être le grand débat que vous souhaitez sur les retraites, mais Jean-Paul Delevoye, il a travaillé pendant 18 mois sur le projet de réforme. En juillet, il a présenté avec le Premier ministre Édouard Philippe les grandes lignes de cette future réforme, avec l'âge pivot comme idée principale. Finalement, fin août, vous reculez, il n'y a plus d'âge pivot. Est-ce que vous êtes sûr de la réforme que vous voulez faire ?
Ce dont je suis sûr, d'abord, c'est la raison pour laquelle nous voulons réformer. Vous savez, j'entends beaucoup parler des questions d'âge et on agite comme un totem le sujet des 62 ans, en disant en France, on a un âge légal, c'est 62 ans. Mais en fait, la réalité, c'est qu'une femme sur cinq en France, quand elle part à la retraite, elle doit attendre 67 ans. Pourquoi ? Parce qu'elle a souvent élevé ses enfants, donc elle a fait des pauses, parce qu'elle a eu une carrière hachée et parce qu'elle a travaillé à temps partiel. Donc il y a une forme d'hypocrisie qui est terrible dans le système et dont nos concitoyens sont parfaitement conscients. Donc c'est important de savoir pourquoi on réforme. Après, moi j'ai retenu quelque chose des Gilets jaunes, de cette crise terrible qu'a connue notre pays. C'est qu'on nous a crié très fort dans l'oreille, on nous a même passé une grosse soufflante pour nous dire « c'est bien beau que vous vouliez réformer, mais est-ce que nous aussi on pourrait être associés à la réforme ?» Et donc ce que nous avons décidé de faire, ce que le président de la République a souhaité dès le mois d'avril dernier, c'est de dire en quelque sorte « maintenant on vous met dans la cuisine avec nous ».
Pardon d'être un peu prosaïque, mais ça veut dire que Jean-Paul Delevoye, il a travaillé pendant 18 mois pour rien?
Mais pas du tout. Jean-Paul Delevoye, il a bâti des préconisations. Il a imaginé, avec les organisations syndicales, avec ce qu'on appelle leurs négociateurs retraite, il a imaginé ce que pouvait être un système général, cible, qui prenne en compte toutes les données du problème. Aujourd'hui, on est dans une phase où il faut évidemment à la fois discuter de ce système cible avec les organisations syndicales, à un niveau supérieur, puisque le Premier ministre rencontre les patrons de toutes les confédérations. Et puis, il faut discuter de la transition. Mmh. Aujourd'hui, vous avez 42 régimes. Il faut, catégorie professionnelle par catégorie professionnelle, discuter avec les organisations patronales, syndicales, avec les représentants des professions, de la manière dont on fait tout converger.
Est-ce que, Sibeth Ndiaye, l'âge pivot est définitivement enterré ou est-ce qu'il reste sur la table ?
Alors, je vous invite à avoir une lecture attentive du rapport qu'a présenté Jean-Paul Delevoye. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ce rapport, il y avait différentes modalités qui étaient posées sur la table. Mmh. Il y avait à la fois un allongement de la durée de cotisation, mais aussi un âge pivot, celui de 64 ans, qui est aujourd'hui...
Qui semble avoir été écarté par le président de la République.
Qui est aujourd'hui, non seulement l'âge auquel les gens partent réellement, mais en plus l'âge auquel il est prévu de partir, puisque une réforme a été précédemment menée dans le quinquennat de François Hollande, et cette réforme prévoit un allongement progressif d'ores et déjà de la durée de cotisation jusqu'à 64 ans.
Mais l'âge pivot, c'est encore différent.
Et donc, c'est important de bien voir qu'il n'y a pas de tabou sur l'allongement de la durée du travail dans la vie. Ça, c'est un premier élément. On a deux choses qui sont sur la table. Ce qu'a dit le président de la République, c'est qu'il avait personnellement une préférence pour un allongement de la durée de cotisation. Peut-être que dans la discussion avec les organisations syndicales, ils nous diront que ça n'est pas la bonne solution. Peut-être que dans le débat avec les Français, ils nous diront que ça n'est pas la bonne solution et qu'ils en préfèrent une autre.
Donc la question de l'âge pivot, de l'âge, est toujours sur la table.
La question de aujourd'hui, toutes les questions sont sur la table de cette réforme. Et donc on ne va pas dire « on concerte » pour dire « en fait, on a déjà la solution à la concertation ». On va concerter, on va en fait négocier avec les organisations syndicales. Il y a des principes qui sont intangibles. Les principes qui sont intangibles, c'est qu'on souhaite que ce régime futur soit un régime par répartition. On souhaite qu'il y ait de la solidarité entre les personnes qui sont d'ores et déjà retraitées et celles qui sont actuellement en
activité. Et qu'on va travailler plus longtemps.
Bien sûr, mais à quel Français vous allez faire croire qu'avec l'allongement de la durée de la vie, on va travailler moins longtemps? C'est ridicule.
Le but du grand débat, donc, voulu par l'exécutif, le grand débat sur les retraites, je voudrais en avoir le fond philosophique. C'est de demander quoi aux Français? Leur demander ce qu'ils pensent de ce qui aura été négocié et décidé? Ou c'est de leur dire, toutes les pistes sont ouvertes, laquelle préférez-vous?
En fait, je crois que quand on est face à une réforme, alors le terme techno que j'ai mis du temps à comprendre, c'est systémique. Donc, une réforme aussi importante et aussi globale, c'est d'abord important de partager, finalement, la raison pour laquelle on l'a fait. Et aujourd'hui, interroger un Français dans la vie, je crois qu'il y avait des micro-trottoirs qui ont été réalisés dans différentes émissions matinales ce matin, les gens comprennent même pas comment le système fonctionne aujourd'hui. Il y a un certain nombre de choses qu'il est important de partager. Une fois qu'on a partagé quel était l'état actuel du système, on peut s'interroger sur les grands principes du système cible. En quelque sorte, dire, mais vers quoi on a envie de tendre? Qu'est-ce que ça veut dire de la justice? Qu'est-ce que ça veut dire de l'équité dans un système des retraites? Qu'est-ce que ça veut dire?
Les Français vont discuter des grands principes de la retraite, c'est ça?
Les grands principes, le jour où vous dites, à partir du premier enfant, on engrange des droits supplémentaires pour la retraite, c'est quelque chose qui est important. Quand vous dites, il faut que les femmes...
On le sait, non?
Non, on le sait pas. Aujourd'hui,
Je pense que chaque Français calcule déjà sa retraite peu ou prou en fonction du système.
Alors ça, détrompez-vous, parce qu'on la calcule en général quand on n'est pas très loin de la retraite. Quand vous avez 20 ans aujourd'hui, vous avez l'intime conviction que vous n'aurez pas de retraite. Et qu'il vaut mieux commencer tout seul à épargner dans votre coin.
Pardon, Simène, pour juste être très clair, parce que c'est un peu flou cette histoire du grand débat, j'ai du mal à comprendre, mais peut-être que c'est moi qui suis un peu lente, mais il n'y aura jamais de consensus. Je veux dire, chaque Français aura une idée sur ce qu'on veut des retraites, c'est ce que disait Dominique Seux tout à l'heure. Il n'y aura pas de consensus, donc à un moment, il faut trancher, il faut décider. Ça va être quoi ce grand débat?
Vous allez
donner des pistes?
Quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, j'ai beaucoup entendu, mais à quoi sert ce grand débat? Il y a une crise qui est terrible dans notre pays, il y a de la violence, et donc on n'arrivera jamais à retisser quelque chose entre les Français. Et pourtant, au sortir de ce grand débat, il y a eu des annonces extrêmement fortes qui ont été réalisées par le président de la République en matière de baisse d'impôts, en matière de revalorisation du travail, y compris de revalorisation financière. Donc il y a des choses qui ont été faites, et je crois que, même si elles n'ont pas rencontré un consensus total, en tout cas elles ont rencontré une adhésion qui était importante. Le grand débat national, c'est de pouvoir partager une contrainte. Évidemment qu'on tranchera à la fin. C'est le rôle du politique et c'est le rôle du gouvernement.
Mais on va donc présenter aux Français, dans le cadre de ce débat, des options différentes.
Ils vont voter sur Internet.
Je vais vous faire une petite confidence. En fait, Édouard Philippe, il rencontre les organisations syndicales tout à l'heure. On essaie d'avoir du respect vis-à-vis de ces organisations syndicales et donc on souhaite les associer pleinement à la manière dont on organisera ce grand débat national. Donc, je vous ferai pas du tout de révélation sur les modalités techniques. Est-ce qu'on les questionne? Est-ce qu'il y a une espèce de plateforme Internet ou quoi? Je peux pas vous le dire. Je suis très honnête parce parce que le Premier ministre souhaite en réserver la primeur aux partenaires sociaux.
En cette rentrée, la droite vous accuse d'immobilisme. C'est sa lecture qu'elle a du grand débat sur les retraites. Guillaume Larrivé, par exemple, je ne voudrais pas que le quinquennat d'Emmanuel Macron se mette à roupiller. Valérie Pécresse, le président, ne fait pas le quart de ce qu'il faudrait pour redresser le pays en matière d'autorité, d'immigration, de laïcité, de réforme. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le macronisme est sur pause, qu'il est devenu une forme de chiracisme?
Je dis que c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Parce que en matière de réforme, on a aussi reproché à ce quinquennat et à ce gouvernement de trop en faire. On nous a dit, vous êtes brouillon, vous partez dans tous les sens, vous faites une réforme par semaine en Conseil des ministres, on n'y comprend plus rien. Et lorsque, aujourd'hui, on prend du temps pour parler d'une réforme qui est importante pour notre pays, on nous dit, vous allez trop lentement. Donc je crois que l'opposition, et en particulier l'opposition de droite, vu l'état dans lequel elle est, n'a d'autre manière d'exister que de dire l'inverse de ce que dit le gouvernement, grand bien leur en face. Je suis pas tout à fait certaine que ce soit le mieux pour le pays.
Alors maintenant, l'opposition de l'intérieur.
Voilà, Cédric Villani qui a déclaré hier soir sa candidature à la mairie de Paris. Bon, il y avait peu de suspense, mais bon, voilà,
je
c'est
crois.
Fait. Comment la qualifiez-vous, cette candidature? Dissidence, traîtrise, opportunisme, normal, acceptable? C'est quoi le mot pour vous?
Moi, j'exprimerai d'abord beaucoup de déception humaine vis-à-vis de Cédric Villani, parce que on a partagé assez tôt une aventure avec En Marche. Ma conception d'un mouvement politique, c'est un mouvement où finalement on décide de se mettre ensemble pour réaliser un projet. En l'occurrence, un projet au service des Français. Là, évidemment, je suis déçue parce que il avait pris un engagement de s'engager dans un processus de désignation pour les candidatures aux élections municipales. Puis finalement, il respecte pas la parole donnée. Donc c'est un peu décevant humainement.
Donc vous lui dites, en fait, t'aurais pas dû te présenter à la primaire interne, t'aurais dû y aller seule, mais si tu t'es présenté à la primaire interne, faut respecter les résultats.
Ah bah c'est une évidence, bien sûr, on se fixe des règles collectives, et y compris, c'est pas une nouveauté ces règles, parce que pour les élections législatives, qui lui ont permis de devenir député de la République En Marche en Essonne, il a participé à ce processus qui lui a été profitable, puisqu'il a été élu et qu'il a été un très bon député, et qu'il est encore, évidemment, un très bon député de la République En Marche.
Mais en même temps, Sibeth Ndiaye, est-ce que vous ne diriez pas que Villani a bien appris la leçon, s'affranchir des règles, s'affranchir des partis, disrupter l'ensemble de la réalité politique, croire en sa chance, éventuellement citer René Char, au fond faire du Macron sans Macron?
Alors, je vais vous rappeler un peu d'histoire par rapport à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il appartenait à un espace politique qui était celui du Parti Socialiste. On a d'ailleurs été adhérent. Puis il a décidé de rompre. Il est parti du gouvernement. Il a fondé un mouvement politique. Il a fait croître ce mouvement politique. Il a porté un projet alternatif. Il ne s'est pas présenté à la primaire interne d'un parti, que ce soit les Républicains ou que ce soit le Parti Socialiste. Il a pris son risque totalement.
Donc Villani ne fait pas une Macron.
Je crois que ça ne souffre pas de comparaison. Pour moi, ce qui est important, c'est au fond, quel est finalement le candidat de la République En Marche et le candidat de la majorité. Il y en a un seul, qui s'appelle Benjamin Griveaux.
Mais alors pourquoi ne pas clarifier les choses en excluant Cédric Villani de votre parti?
Parce que moi je considère, et c'est le souhait aussi de Benjamin Griveaux, que jeter l'anathème, que construire la division, c'est pas le meilleur moyen
de
rassembler.
Vous voulez pas en faire un martyr, c'est ça?
C'est pas le meilleur moyen derrière de pouvoir rassembler. Parce que je ne désespère pas que avant qu'il y ait le dépôt officiel des candidatures, qu'on puisse, parce que la main de notre point de vue est toujours tendue. Et Benjamin Griveaux est très ouvert au rassemblement, évidemment.
Allez, dernière question sur le sujet. Vous avez 30 secondes, Sibeth Ndiaye, pour convaincre un auditeur parisien de voter Benjamin Griveaux plutôt que Cédric Villani. C'est parti.
Benjamin Griveaux, je pense que c'est d'abord un homme qui est très engagé. Quand il s'est engagé à En Marche, il y avait peu de chances, peu de gens imaginaient que Emmanuel Macron allait devenir président de la République. Il s'est engagé pour des idées. Ça, c'est quelque chose qui révèle du courage. C'est aussi un homme qui est très rassembleur. Il en a fait la preuve dans le début de cette campagne en ayant des personnels de droite ou des personnalités de gauche. Je pense
très rassembleur, sérieusement. Je vais couper un peu avec les révélations de cet été sur la manière dont il a traité les uns et les autres.
Alors parlons-en de ces révélations.
Et les
moi,
insultes.
Vous savez quoi? L'enregistrement de conversations privées dans lesquelles vous vous lâchez un petit peu, franchement, je trouve que c'est les degrés zéro de la politique. Je vous le dis, mais en toute sincérité.
Donc Benjamin Griveaux n'est pas une erreur de casting?
Pas du tout. Au contraire, c'est une énorme fierté pour notre mouvement.
Allez, on file au standard, il est 8h35. Madeleine, j'ai peur de faire une faute sur votre prénom. Dites-moi.
Alors, c'est Madeleine.
Madeleine, et vous avez la parole. Soyez la bienvenue.
Merci. Alors, moi, je voulais poser une question sur la question des moyens qui vont être mis sur la lutte contre les violences, puisque...
Les violences faites aux femmes, hein ?
Oui, tout à fait, sur les violences faites aux femmes. On met en avant le fait que il n'y a pas d'argent magique. Or, 1,5 milliard va être mis sur la question du SNU. Donc, pourquoi 1 milliard n'est pas engagé sur la lutte contre les violences, alors que 101 femmes sont mortes depuis le début de l'année?
Merci pour cette question. Le service national, 1,5 milliard, et pourquoi pas la même somme sur la question des violences faites aux femmes? Sibeth Ndiaye vous répond.
Vous savez, Madeleine, merci beaucoup pour votre question. D'abord parce que elle révèle que c'est maintenant un sujet de société. Avant, on parlait de drames passionnels, de drames familiaux, quand une femme mourait sous les coups de son compagnon ou de son conjoint. Maintenant, on parle de féminicide. C'est déjà un énorme progrès dans notre société. Sur la question des moyens que vous évoquez, moi, je voudrais vous donner quelques chiffres. D'abord, le fait que l'État, le gouvernement, consacre 530 millions d'euros par an. C'est une somme qui est importante et qui est supérieure à ce qui se faisait avant pour l'égalité entre les femmes et les hommes, de manière générale.
Oui, ça c'est le chiffre que vous avancez qui comprend ce que met tous les ministères pour lutter contre ça, mais c'est un chiffre que contestent les associations.
Tout à fait, et en comparaison, quand vous prenez l'exemple espagnol, qui est bien souvent cité, ils calculent de la même manière que nous, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte l'intégralité de leur action pour l'égalité en faveur des hommes et des femmes, entre les hommes et les femmes.
Et eux, ils ont combien de budget ?
Ils donnent une intention de 1 milliard d'euros, mais ça compte, par exemple, le soutien au sport féminin.
Mais pourquoi ne pas faire la même chose? Pourquoi ne pas faire la même chose?
Parce que moi, j'aime pas additionner les choux et les carottes. J'aime être très précise.
Vous le faites quand même. Quand vous calculez tous les ministères, donc vous additionnez les choux et les carottes et après.
Alors, moi, ce que je vous dis, c'est deux choses. On consacre pour l'égalité homme-femme 530 millions d'euros par an. Si vous multipliez par 5, je vous laisse faire la multiplication, c'est largement supérieur au milliard espagnol dont on nous dit qu'il sert aussi à soutenir l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc comparons ce qui est comparable. Ensuite, très précisément, sur la lutte contre les violences, le gouvernement a mis sur la table 79 millions d'euros de subventions aux associations qui, sur le terrain, accompagne les femmes victimes. C'est 30% de plus que l'année dernière. C'est une somme qui n'a jamais été atteinte et donc c'est un effort qui est un effort important. Mais je dis juste une chose. Si il suffisait de mettre encore plus d'argent sur la table pour éviter le meurtre d'une seule femme, évidemment que nous le ferions. Force est de constater, et on a eu cette histoire du gendarme au téléphone qui ne propose pas le bon accompagnement à une femme, de voir que c'est pas parce qu'on le paye plus, ce gendarme, ou qu'on en met 10 de plus, que ça change quelque chose. Il faut changer les mentalités aussi.
Redonnons la parole aux auditeurs de France Inter sur l'application mobile. Antoine vous pose la question suivante. Le gouvernement souhaite-t-il enfin faire de la communication autour du référendum d'initiative partagée sur Aéroport de Paris? Quasiment aucune publicité. Un site internet semblant provenir du début des années 2000 pour un sujet aussi important. Merci d'une réponse. Antoine de Paris, Alexis Corbière disait en substance la même chose au micro d'Inter. C'était hier. Sibeth Ndiaye.
Alors, merci Antoine pour votre question. Ce référendum, il a été souhaité par des parlementaires et aujourd'hui, il y a des signatures qui doivent se faire pour pouvoir décider ou pas que le référendum se tiendra. Il y a aujourd'hui, je crois, près de 700 000 signatures. C'est donc déjà un chiffre qui est important, ce qui témoigne du fait qu'il y a des Français qui savent parfaitement que ce référendum existe.
Alexis Corbière disait au micro de Léa Salamé que c'était la première fois qu'une chose de cette nature a été mise en œuvre et qu'il fallait donc l'accompagner pour informer les Français, dire que ça existe, dire de quoi il en retourne, que le gouvernement a fait la publicité, la promotion de son grand débat, mais que là, il n'y a pas de moyens publics mis à la disposition des citoyens. C'était ça le raisonnement.
Alors là, c'est vraiment être d'une triste mauvaise foi, parce que vous avez vu une pub à la télé pour dire qu'il y avait le grand débat national ? Une seule fois.
Pardon, mais il n'y avait pas besoin de pub. Vous en avez parlé, les médias aussi en ont parlé.
À un moment donné, moi, j'appartiens à une majorité qui considère qu'il est préférable de privatiser Aéroports de Paris. Je ne vais pas faire la pub, moi, personnellement, sur une antenne pour dire il faut absolument aller voter pour demander un référendum pour ne pas privatiser Aéroports
de
Paris.
C'est pas ce qu'ils demandent.
C'est le rôle.
Non, non,
c'est
ils disent, il existe un référendum qui est mis en œuvre. Mais
c'est incroyable. Est-ce que pour le grand débat national, c'est pour ça que je vous posais la question de la publicité à la télévision, est-ce que le gouvernement a engagé matériellement de l'argent pour faire la promotion en tant qu'événement de ce grand débat national?
Donc, je récuse
totalement le parallèle. Il y a des organisations politiques, des organisations, des associations qui veulent faire la promotion de ce référendum, c'est à elles de le faire et c'est à elles de dégager des moyens pour le faire.
La parole à Bruno, bonjour et bienvenue sur Inter.
Oui, bonjour, je vous remercie de prendre ma question. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Je vois des grands débats qui sont organisés, des échantillons hyper représentatifs extraits de la population, toutes sortes de choses qui sont pas nécessairement inintéressantes, mais qui me semblent révéler quand même un grand drame de la démocratie, c'est qu'on est censé avoir élu des députés qui doivent avoir, aussi si nombreux qu'ils sont et avec des partis aussi différents, avoir des opinions assez opposées et diverses. Et ce que je vois dans les débats, c'est que il faut regarder les débats en commission parlementaire, c'est particulièrement affligeant. Une fois que le représentant du gouvernement a donné sa position, on passe au vote et les amendements choisis sont adoptés. Tout le monde dit la même chose. Il suffit d'avoir 4 députés, 1 par parti ou 5, 1 par parti, avec un pourcentage de voix équivalent à ce que représente son parti, et ça ferait le même résultat. Ils ne servent à rien.
Les parlementaires ne servent à rien. Bruno, merci pour votre intervention. La porte-parole du gouvernement vous répond.
Bonjour Bruno. Alors là, je vous avoue, je peux pas du tout être d'accord avec vous parce que d'abord les parlementaires, ce sont des gens qui travaillent énormément. C'est pas parce que ils sont pas tous les jours à la radio ou à la télé pour prendre des positions diverses ou variées qu'ils ne travaillent pas. Ils ont un énorme travail en commission. D'ailleurs, quand vous voyez individuellement dans chacune des commissions peu de députés, c'est parce que les autres travaillent dans d'autres commissions et donc ils travaillent d'arrache-pied. Après, je reconnais que la démocratie représentative telle qu'elle existe aujourd'hui, parfois elle manque de lisibilité. On comprend pas forcément bien comment fonctionnent les choses. Nous, on a la volonté de la rénover, de la dépoussiérer. C'est la raison pour laquelle on souhaite qu'il y ait moins de parlementaires, que ces parlementaires disposent de plus de moyens pour pouvoir aller au fond des choses et au fond des débats. Et donc, je suis d'accord avec vous, il faut changer les choses, mais je peux pas vous laisser dire qu'ils ne travaillent pas.
Sibeth Ndiaye, une question d'actualité de cette nuit. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, s'est dit opposé à l'instauration de zones sans pesticides dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation. Il a dit que c'était une folie de faire ça, une folie, c'est ses mots. Et pourtant, Emmanuel Macron avait dit soutenir les intentions du maire de Langouette qui avait pris un interdit sur les fameux 150 mètres. Alors, est-ce que c'est une folie ou une volonté légitime, comme a dit Emmanuel Macron?
Alors, il y a une différence entre la volonté et l'action. Qu'il y ait une volonté de protéger nos concitoyens des pesticides, évidemment, nous la partageons. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec le glyphosate, en souhaitant qu'il soit interdit en Europe sous 5 ans, et qu'en France, on puisse, sous 3 ans, réussir à le faire disparaître de nos cultures. Et plus largement, nous avons des objectifs ambitieux en matière de réduction des pesticides. Et donc ça, c'est la volonté, on la partage,
non, là,
évidemment.
Vos ambitions, on peut les mesurer en mètres, là. Donc,
oui,
150, dit le maire, 3 à 10, répond Didier Guillaume.
Mais donc, moi ce que je vous dis, c'est que on partage la volonté qui est de lutter contre les pesticides. Après, quand on est dirigeant politique, et en particulier quand on est au gouvernement, on doit prendre en compte aussi ce qu'est la réalité des agriculteurs. Donc, si on avait dans toutes les villes de France des zones d'exclusion de 150 mètres autour des habitations, je vous prie de me croire que l'agriculture française ne se porterait pas très bien.
Donc ce serait une folie, vous employez le mot du ministre de l'Agriculture.
Mais je suis d'accord avec, évidemment, le ministre de l'Agriculture pour dire qu'il faut faire les choses de manière raisonnable et raisonnée. Il faut laisser le temps aux agriculteurs français qui connaissent bien des difficultés de s'adapter. Et il faut les accompagner pour qu'ils puissent s'adapter. Donc dire du jour au lendemain, vous n'avez plus le droit d'utiliser des pesticides et débrouillez-vous sans solution, je ne le dirai jamais.
180 personnalités, Isabelle Adjani, Anne Arthus-Bertrand, Cyril Dion, Pierre Ninet, Amélie Nothomb, ont signé ce matin une pétition contre l'élevage intensif. Nous n'en pouvons plus de votre immobilisme. Ça, c'est à votre attention. Peut-on lire dans la pétition ? Il faut interdire les élevages intensifs d'animaux qui confinent les animaux dans des bâtiments fermés, dans des cages, dans des bassins en béton. Vous répondez quoi ?
Je réponds évidemment que nous avons une préoccupation importante vis-à-vis du bien-être animal parce que il en va de notre propre humanité que d'être capable d'élever des animaux de manière correcte. Mais nous avons aussi un devoir, c'est de nourrir les Français et plus largement à travers le monde, c'est de nourrir à terme 10 milliards d'êtres humains. Donc on doit être capable de protéger le bien-être des animaux, de les élever dans les meilleures conditions possibles, dans des conditions qui respectent nos valeurs, mais il faut aussi nourrir la planète,
donc c'est
et
non.
C'est un impératif.
C'est non.
Et donc, moi, je dis qu'il faut pouvoir améliorer les choses. L'élevage intensif, s'il a été développé, c'était parce qu'à un moment donné, il y avait une croissance de la population mondiale qui nécessitait que on utilise ces pratiques-là. Aujourd'hui, on rentre petit à petit, c'est David Cormand qui le disait à votre antenne ce matin, dans une société qui est différente, qui est peut-être un peu plus sobre. On doit encourager cette sobriété. Il n'est pas forcément nécessaire de manger de la viande le midi et le soir. D'ailleurs, c'est pas très bon pour la santé. Et donc, il faut sans doute changer nos pratiques. Mais je crois que, en toute chose, les transitions brutales, je n'y crois pas du tout. Il faut faire les choses progressivement.
Sibeth Ndiaye, merci. Vous êtes porte-parole, je le rappelle, du gouvernement. Merci d'avoir été au micro
merci
d'Inter depuis 8h20 ce matin.